C'est pas du vent. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour à tous, nous sommes à Cotonou au Bénin à l'occasion de la 3e édition du prix RFI Challenge App, un prix dont nous allons vous parler dans un instant, mais je tenais tout d'abord à saluer le public venu nombreux à l'Institut français de Cotonou. Voilà, beaucoup de monde ici à l'Institut français de Cotonou, dans le théâtre de verdure. Nous sommes entourés d'arbres, on a chaud, c'est chaleureux dans tous les sens du terme, n'est-ce pas Claire Hédon, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous.
Alors Claire, vous êtes responsable des magazines de RFI, expliquez-nous en quoi consiste ce prix RFI Challenge App.
L'idée c'était à la fois de récompenser, de mettre en valeur, de soutenir et d'appuyer des projets innovants sur le continent africain, majoritairement faits par des jeunes, on en a l'exemple aujourd'hui, qui sont dans le domaine du numérique et qui apportent un plus à la société, qui ont un vrai intérêt général. Les deux premières éditions, la première était sur la santé, la deuxième sur l'éducation et donc aujourd'hui sur le développement durable. Et ce qui est intéressant dans ce prix, c'est qu'on suit les lauréats pour savoir ce qu'ils deviennent et est-ce que leur application, finalement, entre guillemets, elle marche bien, si on a eu raison de les récompenser. Les premiers, c'était justement sur la santé et c'est une application qui permet aux médecins généralistes en brousse de faire appel à des spécialistes en ville pour traiter des pathologies sur lesquelles ils s'y connaissent moins bien, ils ont besoin d'un soutien de spécialistes. La deuxième application sur l'éducation, c'est Lucie, une application qui permet d'apprendre à lire et à écrire avec une application sur Internet. Et donc on voit bien que dans le numérique, il y a le meilleur et il y a le pire, et nous on a envie de promouvoir le meilleur et de promouvoir les initiatives innovantes.
Alors cette année, le thème choisi, c'était le développement durable, plus particulièrement le développement de l'agriculture durable et l'accès à l'eau. Alors pourquoi ces thèmes-là ?
Alors je pense que c'est pas vous que je vais convaincre sur l'idée que le développement durable, la question de la protection de l'environnement est vitale pour tous, pour les pays du Nord comme du Sud. Vous êtes bien placés ici à Cotonou pour le savoir et ça nous paraissait important d'apporter un coup de pouce à des initiatives dans le domaine justement de l'agriculture et de l'accès à l'eau qui sont deux thématiques absolument cruciales sur le continent africain.
Merci beaucoup Claire Hédon.
Et bonne émission.
Merci. Applaudissements. Alors les trois finalistes et les partenaires du prix sont avec nous. Je vous les présente tout de suite. Eric Thiam du Cameroun. Voilà. Serge Zaongo du Burkina Faso. Joseph Olivier Bellet de Côte d'Ivoire. Ce prix a de nombreux partenaires, deux d'entre eux sont avec nous, Edem Dalmeda qui est donc le directeur général d'Africa Global Recycling et Florent Youzan, directeur du laboratoire Innovation Afrique du groupe Société Générale. Et comme l'a présenté Claire, le thème de cette 3e édition du concours RFI Challenge App, c'est le développement durable et plus précisément donc l'accès à l'eau et le développement de l'agriculture durable, deux sujets cruciaux pour le continent africain, comme nous l'expliquera tout à l'heure Luc-Olivier Sintonji, qui est donc professeur des universités en hydrologie et modélisation des ressources en eau à l'Institut national de l'eau de l'université d'Abomey-Calavi. Mais tout de suite, honneur aux gagnants. Donc Serge Zaongo du Burkina Faso, je vous en prie, prenez le micro. Vous avez déjà les faveurs du public. Alors je rappelle donc que vous venez du Burkina Faso, félicitations tout d'abord.
Merci.
Alors on va être juste avec les auditeurs, vous venez d'apprendre que vous avez gagné en fait, juste avant l'enregistrement de cette émission, votre réaction ?
Alors déjà c'est un sentiment de gratitude et de remerciement déjà pour l'opportunité donnée par RFI de participer déjà à cette compétition.
Alors le jury que j'ai présidé vous a notamment récompensé pour la capacité en fait de développement rapide de votre innovation dans les pays du Sahel. Expliquez-nous en quoi consiste Saga ?
Alors, Saga, déjà au Burkina Faso, en langue locale, ça veut dire tout simplement la pluie. Mais comprenez que dans le cas du projet, il s'agit d'un système d'arrosage automatique, goutte à goutte, autonome. Alors, le principe de Saga, c'est de prendre le niveau d'humidité au niveau du terreau et apporter la quantité d'eau nécessaire. Pourquoi cela ? Parce que le Burkina que je prends comme exemple, ça fait 516 000 hectares en termes de progression de la désertification chaque année. Pourtant, c'est 80% de la population active qui est active dans l'agriculture. Donc, il y a un véritable potentiel. Parvenir à concevoir un dispositif qui permet d'économiser en eau, d'accroître la productivité et aussi permettre à ces agriculteurs, bien sûr, d'utiliser les cultures hors sol dans les zones les plus arides, ça va donner beaucoup plus de capacité d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et nous pensons que cela est possible en espace d'une génération.
Et alors, qu'allez-vous faire des 15 000 euros, parce que donc ce prix a une dotation de 15 000 euros, qu'allez-vous faire de cette somme ?
Alors déjà, il faut savoir que le Burkina Faso est segmenté en 13 régions. Et notre objectif, en fait, c'est de mettre un dispositif par région. Et de par là, conquérir l'ensemble des agriculteurs qui se retrouvent au niveau de chaque région. Et le dispositif en France est face autour de 300 000 francs. Mais le modèle économique, il est tel qu'on est obligé de donner le dispositif aux agriculteurs et de leur permettre de les utiliser et de payer après deux ou trois saisons de récolte. Donc, il faut déjà un fonds minimum et nous pensons que nous pouvons segmenter en fait ces 15 000 euros sur les 13 régions pour chaque dispositif par région.
Donc, grâce à ce prix, vous allez pouvoir développer votre innovation.
Exactement.
Eh bien, RFI est très fier. Merci. Et nous allons suivre votre aventure. Autre innovation qui a attiré l'attention du jury, puisque vous faites partie des finalistes, parmi quand même plus de 300 dossiers, Agropad, que vous nous avez présenté avec passion. Éric Thiam, bonjour. Alors, vous êtes venu du Cameroun. En quoi consiste Agropad ?
En fait, l'Agropad est un automate qui fonctionne de façon autonome et a pour but de remplacer l'homme dans une exploitation agricole. Et il est piloté à partir d'un téléphone portable grâce au réseau GSM et permettant de pouvoir exploiter rationnellement les ressources en eau.
Et comment est-ce que vous avez eu cette idée ?
J'ai eu cette idée déjà parce qu'à la base, je suis fils d'agriculteur, il faut le rappeler. Et à l'époque, on nous réveillait de bonne heure et en soirée pour irriguer les plantations. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais apporter pour résoudre ce problème ? D'où c'est là que m'est venue l'idée pour la première fois. Et c'est comme ça que j'ai pu développer l'Agropad.
Et donc, aujourd'hui, vous êtes au stade de prototype et vous avez l'intention donc, d'aller plus loin. Vous n'avez pas lâché, hein, vous nous l'avez expliqué durant la présentation.
Tout à fait, bien sûr, je ne dois pas lâcher, je dois continuer. Je dois continuer.
Eh bien, on va vous suivre aussi, on vous expliquera ça tout à l'heure. Florent Youzan, je rappelle donc que vous êtes directeur du laboratoire innovation du groupe Société Générale. Et vous avez justement décidé d'accompagner Éric Thiam pour développer son projet. Il ne le savait pas, hein, donc il l'apprend en direct dans l'émission.
Oui, en effet, parce que d'abord, je tiens à féliciter Thiam pour sa passion d'entrepreneur et aussi pour l'histoire qu'il nous a racontée. L'histoire de Thiam, c'est l'histoire de plusieurs jeunes Africains qu'on rencontre chaque matin qui ont la chance d'aller apprendre sur d'autres cieux et d'avoir à cœur de revenir en Afrique pour changer l'Afrique. Et il a réussi à monter son application à partir d'un problème concret qu'il a identifié dans sa famille. Ce que nous allons utiliser pour réinventer l'avenir de l'Afrique se trouve dans notre quotidien. Ce sont nos problèmes de tous les jours et c'est justement ce que Thiam a voulu adresser avec sa solution. Pour nous, c'est un message fort qu'il envoie à la jeunesse et à l'Afrique. Et notre rôle, c'est de le soutenir, parce que l'avenir, c'est en Afrique.
Alors, il y a beaucoup d'étudiants, de collégiens ici, évidemment. Il y en a même qui lèvent le poing au fond de la salle. Ben oui, c'est une parole qui porte. Edem Dalmeda, vous êtes directeur de Africa Global Recycling. Le projet d'Éric Thiam et d'ailleurs celui de Serge Zaongo vous ont beaucoup plu aussi.
Absolument, absolument. D'ailleurs, félicitations à tous les trois. Félicitations aux lauréats. Les projets m'ont beaucoup plu parce que, Florent le dit très bien, chacun des mots de notre quotidien ou de notre continent est une opportunité de développement. Et ils l'ont très bien compris. Ils ont très bien su le transmettre. Et d'ailleurs, notre ami du Cameroun, je me retrouve un peu en toute humilité dans son histoire parce qu'il est passionnant. Un entrepreneur doit être passionnant. Il est passionné. Il raconte une vraie histoire. Il découvre des choses à l'étranger. Et il sait, surtout, et ce qui m'a plu dans son discours, c'est l'adaptabilité des solutions. Et ça, c'est ce qui manque. Et c'est aussi la preuve qu'on peut partir de zéro contre, je dirais, les préjugés ou autres d'ordre familial ou les freins où on vous dit ne rentrez surtout pas parce qu'il n'y a rien à faire en Afrique. Ben, c'est faux. Il a su le démontrer et on le soutient pour ça.
Alors, vous l'avez dit, hein, le point commun de nos trois finalistes, c'est leur enthousiasme, leur passion pour leur projet. Joseph-Olivier Billet, bonjour.
Bonjour.
Vous, vous êtes venu donc de Côte d'Ivoire pour nous présenter votre projet We Fly Agri. Et vous aussi, vous auriez pu finalement rester à l'étranger, mais non, vous êtes rentré en Côte d'Ivoire.
Exactement, parce que pour nous, à We Fly Agri, l'Afrique ne devrait plus être celle qui tend la main pour demander, mais plutôt celle qui tend la main pour donner, pour nourrir le monde, parce qu'elle a le potentiel de nourrir le monde. Mais c'est un potentiel... Mais c'est malheureusement un potentiel qui est inexploité. Et à We Fly Agri, nous travaillons dur pour révéler ce potentiel-là grâce à l'innovation, grâce à la technologie.
Alors expliquez-nous en quoi consiste We Fly Agri.
Alors nous avons deux solutions principales. La première est orientée vraiment pour les investisseurs, les agriculteurs qui n'ont pas le temps de se déplacer sur leur parcelle. Alors via des drones et via un logiciel que nous avons développé de toutes pièces en Côte d'Ivoire avec des talents venus du continent entier, nous aidons à optimiser la productivité, améliorer la visibilité et encore une fois révéler leur potentiel. La deuxième solution, elle s'adresse aux coopératives et aux petits agriculteurs, leur permet d'avoir de vraies informations fiables au bon moment et vraiment leur offrir des opportunités. Parce que pour nous, ils n'ont pas besoin de charité, mais d'opportunités. Voilà.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes au Bénin, à l'Institut français de Contenou, devant un public venu nombreux découvrir nos finalistes de la troisième édition du RFI Challenge Up. Il y a notamment les élèves de Irgib Africa, très nombreux. Voilà. Et les élèves aussi du collège Weiro. Voilà. Désolé pour les autres, on peut pas citer tout le monde, mais comme ce sont les plus nombreux, voilà, c'est ceux que l'on salue sur l'antenne de RFI. Alors le point commun entre nos trois finalistes, c'est qu'ils ont innové, on le disait, dans le domaine de l'agriculture, un secteur qui est la première source de revenus hein, dans de nombreux pays africains, mais qui est vulnérable à plein d'aspects, et notamment vulnérable aux aléas climatiques. Bonjour Luc-Olivier Saint-Onji. Vous êtes professeur donc, des universités en hydrologie et en modélisation des ressources en eau à l'Institut national de l'eau à l'Université Abomey-Calavi. La gestion des ressources en eau est de plus en plus compliquée pour les paysans d'Afrique de l'Ouest.
Ok, bonjour Anne-Cécile. En propos liminaire, je tiens d'abord à remercier RFI pour tout ce qu'elle fait au quotidien pour révéler l'autre visage de l'Afrique. Parce que, ok, généralement, les gens pensent que l'Afrique, c'est ce continent de merde, de misère. Non, il y a la pauvreté, tout comme il y a la pauvreté ailleurs. Mais en Afrique aussi, il y a des talents qui relèvent beaucoup de défis.
On le voit aujourd'hui.
Voilà. Je tiens à remercier déjà et à féliciter les trois finalistes du prix RFI Challenge Up Afrique pour leur innovation et qui va concourir à résoudre beaucoup de problèmes. À améliorer la productivité, la production et aussi les transformations agroalimentaires en Afrique. Pour revenir à votre question, vous savez, c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup de pays en Afrique où la pluviométrie annuelle suffirait normalement, amplement, pour produire davantage, pour nourrir tous les Africains et pour exporter même vers l'extérieur. Mais ce qui se passe, c'est que, en réalité, cette pluviométrie, elle n'est pas bien répartie. On reçoit en peu de temps beaucoup d'eau, ce qui peut provoquer des inondations. Et vous savez, les spéculations agricoles, c'est comme les êtres humains. Il faut les prendre. Il y a un cycle, c'est tout un cycle. Et donc, il ne faut pas leur donner à manger ou leur donner beaucoup d'eau en peu de temps. Il faut répartir, il faut que cette eau-là soit répartie tout au long du cycle. Et donc, ce qui fait qu'il arrive des moments où les spéculations agricoles n'ont pas bouclé le cycle et que la pluviométrie devient rare ou bien elle est mal répartie et ça fait que ben il y a problème justement.
Bon. Et donc, en plus, cette répartition de l'eau, elle est de plus en plus changeante avec les conséquences des changements climatiques.
Très bien. Avec la grande variabilité climatique couplée avec les changements climatiques, cette répartition de l'eau devient très aléatoire et les phénomènes extrêmes, c'est-à-dire on reçoit beaucoup d'eau en peu de temps, sont accentués. Quand vous recevez beaucoup d'eau en peu de temps, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les cultures, pour les plantes, ce n'est pas bon pour l'homme aussi. C'est ça qui provoque des inondations, les déplacements. Et vous savez, la plupart des cultures que l'on produit, à part certaines cultures hydromorphes telles que le riz, ne supportent pas de rester en permanence dans de l'eau sur du long terme. Donc quand vous avez beaucoup d'eau, sur une parcelle agricole et qu'il n'y a pas un dispositif de drainage pour faire partir le surplus, ben, il y a l'eau, mais ça ne permet pas à la production de boucler son cycle et de donner de bons rendements. Voilà ce qui se passe actuellement, mais on vous donnera beaucoup plus de détails tout à l'heure.
Et alors, au Bénin, il y a un décalage entre le nord et le sud du pays.
Oui, le Bénin, pour aller vite, et vu le public, en termes beaucoup plus accessibles, on a, vous savez, en Afrique ou en région intertropicale, le climat est régi par la succession de la saison pluvieuse et de la saison sèche. On est différent dans les pays tempérés où vous avez l'hiver, l'automne, l'été, consort. Bon, donc au Bénin, le sud Bénin, jusqu'au centre, nous avons deux saisons pluvieuses qui alternent avec deux saisons sèches. Et au nord Bénin, on a une saison pluvieuse et une saison sèche. Mais même ce climat est en train de changer. Il arrive des années où au sud Bénin, vous avez de façon continue une saison pluvieuse et une saison sèche. Mais sinon, normalement, on a deux saisons pluvieuses qui atteignent avec deux saisons sèches, avec une pluviométrie moyenne annuelle au sud Bénin qui tourne autour de 1200 mm par an. Et au nord, une saison pluvieuse d'environ 6-7 mois et une saison sèche avec une pluviométrie moyenne annuelle de 1000 à 1100 mm par an.
Et donc, les lauréats ici présents, enfin 2 sur 3, j'ai envie de dire, ont innové dans le domaine de l'irrigation qui permet de moins dépendre des pluies, Luc-Olivier Saint-Onji. Ça se résume souvent à de l'arrosage avec une eau que les paysans doivent aller chercher. Le problème, c'est que les grands travaux, ça coûte cher. C'est pour ça que c'est important, les innovations comme celle de nos lauréats aujourd'hui.
Oui, Anne-Cécile, vous savez, l'eau, elle existe. Même après la pluviométrie, ben, il y a l'eau, il y a le cycle de l'eau. L'eau, elle est stockée soit en surface, soit elle est souterraine. Elle s'infiltre, elle est stockée dans les nappes. Mais le problème, c'est de pouvoir mobiliser cette eau, la transporter et puis pour satisfaire les besoins en eau des cultures. Cette mobilisation, dont l'essor de l'eau, elle est pénible. Parce que jusque-là, d'abord, il faut signaler que jusque-là, en Afrique de l'Ouest, sur les terres irrigables, très peu sont vraiment irriguées. Les pourcentages varient de pays en pays, mais c'est compris entre 3 et 15% tout simplement.
Alors pourquoi c'est si peu? Parce que ça coûte cher?
Oui, parce que les infrastructures coûtent cher. Il faut des infrastructures pour pouvoir mobiliser cette eau et l'amener jusqu'en amont des parcelles. Et là, maintenant, les producteurs peuvent prendre le relais. Et leur innovation, on parle de l'agriculture, de l'irrigation intelligente, c'est que déjà l'essor de l'eau, dont la mobilisation de l'eau, il faut qu'elle se fasse de façon semi-automatisée au moins. D'accord ? Donc il y a des pompes qui fonctionnent sur les panneaux solaires. Vous savez, ce n'est pas le soleil qui manque en Afrique. Bon, et par contre, si on veut recourir à l'énergie conventionnelle, ce n'est pas évident. Déjà même dans les milieux ruraux, cette énergie électrique conventionnelle ne couvre pas de grandes régions. Et même en ville, là où on a cette énergie, elle n'est pas toujours disponible en permanence, il y a des coupures. Alors qu'on a le soleil, donc, il y a des technologies pas trop coûteuses qui vont permettre de mobiliser cette eau-là à travers un système de tuyauterie, de canalisation, emporter cette eau jusqu'en amont des différentes parcelles. Et puis, vous voyez, même quand il y a des producteurs qui ont leur motopompe et qui arrivent à mobiliser cette eau, mais pour arroser l'ensemble de leur parcelle culturelle, c'est pénible s'ils doivent le faire de façon manuelle.
Et donc vous dites qu'il faudrait quand même prévoir dans les budgets des gouvernements et dans les budgets des politiques de développement un peu d'argent pour l'irrigation, c'est essentiel.
Ah oui, exactement. Surtout là où il faut réaliser des infrastructures structurantes. Les régions qui s'inondent, un bon moment de l'année, là, il faut faire de grands investissements. Et puis, les régions qui sont réputées, les régions de pôle de production agricole, il faut faire ces infrastructures pour pouvoir booster l'agriculture. On n'est pas sans savoir que le premier des OMD, objectif du millénaire pour le développement, c'est de réduire l'extrême pauvreté et la faim. D'accord ? On ne peut pas réduire cette extrême pauvreté et la faim si on ne produit pas plus. Et il va falloir, le défi, c'est qu'il faut produire plus sur peu de terres. Donc, il faut augmenter les rendements. C'est-à-dire, la densité de la population, la démographie, tout ça fait qu'on ne peut plus chercher à accroître la production en accroissant rien que les superficies. Il faut accroître les rendements, c'est-à-dire la production par unité de surface. Et ça, c'est un défi qu'on doit pouvoir relever. Et justement, l'irrigation intelligente est un atout considérable pour pouvoir atteindre cette fin.
Florent Youzan, je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire Innovation Afrique du groupe Société Générale. Est-ce qu'il y a beaucoup d'innovation, vous qui scrutez tout ça à l'échelle du continent, dans le domaine de l'agriculture ?
Il faut clairement savoir que dans toute l'Afrique, les jeunes aujourd'hui essaient de répondre à des problèmes qu'on rencontre tous les jours. Et il y a aussi des problèmes dans l'agriculture. Ils ont tous des parents qui sont cultivateurs. Ils identifient au quotidien tous les problèmes que les parents rencontrent dans les champs. Et tout à l'heure, le professeur l'a dit, l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir garder nos parcelles, distribuer ces parcelles de manière équitable, mais augmenter la productivité de ces parcelles. C'est comme ça qu'on arrivera à relever ce défi. Et les jeunes sont en train de travailler sur ce sujet en réfléchissant à des technos qui améliorent la productivité, en intégrant par exemple les drones comme le fait Joseph Billet, en réfléchissant à de petites applications pour téléphone mobile qui permettent en fait de repousser toute cette difficulté. Donc l'idée c'est ça.
Mais donc ça veut dire que les nouvelles technologies en fait rapprochent les jeunes de l'agriculture, parce que l'agriculture, dans la tête de beaucoup encore, j'espère pas trop dans le public ici, mais c'est un peu le métier qu'on n'a pas envie de faire, ça fait pas moderne quoi.
Mais c'est ça justement, beaucoup de jeunes ont compris qu'avant de faire du numérique, il faut se poser la question d'où est-ce que je viens. Ça c'est fondamental. Et l'enjeu c'est de pouvoir allier numérique et notre quotidien. Et je pense que l'agriculture aujourd'hui a permis de nourrir beaucoup d'Africains. Et tous ces jeunes qui ont tutoyé ou qui continuent aujourd'hui de tutoyer des solutions numériques ont pour ambition de résoudre ces problèmes-là et faire en sorte que l'Afrique soit indépendante sur le plan alimentaire.
Edem Dalmeda, vous êtes venu en voisin du Togo, où vous avez fondé Africa Global Recycling, qui est un bel exemple aussi de réussite dans le développement durable. Vous démontrez notamment que le recyclage des déchets, c'est un autre sujet que l'agriculture, mais c'est aussi un sujet où il faut beaucoup changer les mentalités. Le recyclage des déchets, ça peut être rentable.
Bien sûr que ça peut être rentable. Il faut mettre un certain nombre, il faut apporter un certain nombre de réponses à des équations que nous devons résoudre, exactement comme cela se passe sur la question de l'agriculture. Il faut, et j'ai l'habitude de le dire, peut-être aussi arrêter d'importer des modèles prêts à porter. Il faut effectivement s'inspirer, je parle toujours d'inspiration, de transposition, il faut s'inspirer notamment et davantage plutôt que de travailler avec de la transposition uniquement de modèles in extenso que l'on place. Mais la rentabilité elle est là, à condition qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit structurée, que les décideurs s'y mettent, et je crois toujours et profondément à ce partenariat public-privé qui doit être essentiel. L'agriculture, je fais le lien, puisque pour moi, le recyclage, j'ai l'habitude de dire que la question du déchet, pour moi, est simplement aussi un prétexte qui doit permettre de créer des passerelles entre nos différentes comment je peux appeler ça, départements ou innovations, mais en tout cas nous avons la possibilité de créer des passerelles et de faire des choses ensemble à partir du déchet, à partir de l'agriculture, dans la gestion de nos ressources, et tous ces ensembles qui concourent au développement durable.
Alors je voudrais juste, c'est pas une émission sur le recyclage des déchets, mais quand même, comme on vous a là, on a un public nombreux, on est sur RFI, j'aimerais bien quand même que vous nous expliquiez en quelques mots le modèle économique que vous avez mis au point qui fait que recycler des déchets est rentable, et d'ailleurs vous avez des perspectives de développement assez impressionnantes.
Alors là, je vais décevoir ceux qui pensent que j'ai inventé quelque chose. Je n'ai rien inventé. Je me suis simplement inspiré des modèles. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine du déchet. J'ai eu la chance de faire mes armes dans des grands groupes et en Europe. Et je me suis toujours posé la question en revenant en vacances, mais pourquoi avec autant de milliards qui sont dépensés, qui sont mis à disposition de l'Afrique, pourquoi nous n'avançons pas ? Bon, la première raison, je l'ai donnée tout à l'heure, c'est que nous ne faisons que transposer des modèles. La deuxième raison, c'est simplement parce que quand nous apportons des solutions en Afrique, nous ne tenons pas compte des réalités sociales, mais aussi des réalités culturelles. Et puis aussi, la troisième, une des raisons, c'est aussi cette capacité à créer de nouveaux modèles économiques ou même en termes d'innovation sociale. Donc, le modèle économique, pour faire court, nous intégrons dans la chaîne de valeur le producteur que nous responsabilisons, qui va consommer des prestations, mais surtout qui va faire de son déchet une nouvelle ressource qu'il va pouvoir commercialiser.
C'est-à-dire que vous allez chercher les déchets chez des personnes qui les produisent, des entreprises.
Oui.
Vous les recyclez, vous les triez, vous les recyclez.
Exactement.
Et une partie des déchets que vous avez recyclés, vous les vendez. Oui. Et du coup, le prix de cette vente, vous en restituez une partie à ceux qui produisent les déchets.
C'est exactement ça. Le déchet, dès le départ, est prévu pour devenir une matière première. Donc, nous connaissons sur le marché la vente. Après, c'est des calculs de rentabilité, d'exploitation, et donc nous redistribuons simplement une partie aux producteurs du déchet.
Oui. Alors voilà, c'était important de l'expliquer parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'enfouissement, c'est-à-dire le fait de mettre tous les déchets en décharge qui reste la priorité pour la plupart des gouvernements, des politiques de développement.
Oui, parce que les urgences sont nombreuses et malheureusement, et c'est une des raisons aussi des échecs, c'est que nous abordons nos problèmes toujours sur l'angle de l'urgence. Et que la question de l'enfouissement, c'est de débarrasser nos villes des déchets. Mais on enfouit ce qui est ultime. Et donc, c'est sur cette base qu'il faut maintenant que nos gouvernants réfléchissent et que le secteur privé puisse apporter aussi des réponses en créant des chaînes de valorisation, des chaînes de valeur qui intègrent la question de l'emploi, qui fassent des passerelles entre l'industrie et l'agriculture, parce que l'agriculture ne pourra pas se développer en Afrique sans une forme d'industrie. Ça, c'est indéniable. Donc, voilà un ensemble de paramètres qui font que nous avons inventé ce modèle, ou en tout cas proposé ce modèle.
Vous l'avez compris, pour innover, il faut des idées, mais aussi beaucoup de courage et d'enthousiasme. Et c'est l'état d'esprit du concours RFI Challenge App dont nous fêtons la troisième édition.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Ce qu'on peut souvent reprocher à l'agribusiness, c'est la préférence à un taux de profit à court terme, c'est-à-dire imposer à leurs agriculteurs des produits un peu standards, alors que l'agroécologie, c'est précisément au contraire prendre en compte les spécificités de chacun des petits pays, de chacun des agroécosystèmes, comme on dit dans notre jargon, et fabriquer des produits de qualité, toute qualité confondue, gustative, nutritionnelle et environnementale sur ces terroirs.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
You guys back there, come and dance. Allez, allez, venez. Come and dance. After some.
Oh, that you can, oh, that you can.
écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes à l'Institut français de Cotonou à l'occasion de la 3e édition du prix RFI Challenge App devant un public toujours aussi nombreux. Alors j'aimerais demander à nos trois finalistes ce qui les ont poussés à se lancer dans l'aventure de l'innovation dans un domaine comme l'agriculture dans leur pays. Serge Zaongo, vous qui avez gagné le prix pour cette 3e édition, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce domaine, l'agriculture ?
Alors, l'histoire, elle se déroule en deux étapes. Il y a d'abord la première étape où, en fait, j'observais un jardinier qui venait tout simplement arroser les fleurs. Et il est venu une fois dans une période où il y avait des nuages. Donc, il se disait qu'il allait probablement pleuvoir, donc il est reparti. Et lorsqu'il est reparti, on a dû le rappeler pour qu'il revienne, en fait, arroser ces fleurs-là. Et quand il est venu, il avait un peu l'air triste et on s'amusait avec lui. Je lui disais, mais vous savez qu'on peut faire en sorte que vous ayez la possibilité d'irriguer, en fait, ces fleurs-là depuis chez vous. Il a ri, mais en fait, ce fut le déclic. Et on a commencé à effectuer des recherches. Et dans les recherches, en fait, ce qui m'a vraiment motivé, c'est lorsque je suis tombé sur la carte mondiale de la faim de la FAO, qui indiquait qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui souffrent de manque d'alimentation dans le monde. Et là, j'ai commencé à réfléchir à un système d'irrigation, goutte à goutte. Et le tournant dans la conception même du dispositif, c'est lorsque j'ai rencontré des dames qui utilisaient les sacs pour mettre le terreau à l'intérieur des sacs et positionner leur culture tout autour du sac. Et la question, en fait, que je leur ai demandé, c'est pourquoi elles le font. Elles me disent que parce que nous voulons produire plus, sauf que nous n'avons pas assez d'espace. Alors, comment faire? Nous sommes obligés de passer dans une culture hors sol. Et une deuxième question que j'ai posée, c'est si vous avez ces sacs-là disposés sur plusieurs hectares, comment vous faites pour irriguer cela? Elles m'ont dit qu'elles n'oseront jamais irriguer et elles n'oseront jamais disposer ces sacs sur plusieurs hectares parce qu'elles vont passer toute la journée à irriguer en fait ces cultures et ce n'est pas rentable. Et j'ai compris l'un des problèmes et qui fait qu'on a une difficulté à atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est qu'on a de la difficulté à produire plus parce qu'il y a des barrières, parce qu'il y a des handicaps. Voilà pourquoi je me suis lancé dans le dispositif SAGA.
Joseph Olivier Billet, vous avez fait des brillantes études entre Paris, Londres, les États-Unis. Vous êtes revenu en Côte d'Ivoire pour créer WeFly Agri. C'était quoi votre motivation profonde?
Alors j'en ai eu plusieurs. J'aimerais vous raconter une toute petite histoire. L'histoire de Daniel, qui est un jeune Ivoirien qui vit en France, à Paris. Daniel a décidé d'investir dans l'agriculture en envoyant de l'argent à son beau-frère qui était au pays et qui était chargé de faire évoluer sa plantation le temps qu'il finisse ses études et qu'il rentre. Et par photo WhatsApp, je pense que tout le monde ici utilise WhatsApp, par photo WhatsApp, par appel téléphonique, il s'assurait que tout se passe bien. Et effectivement, tout semblait bien se passer jusqu'à ce que Daniel décide de rentrer au pays. Quand il est rentré, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de plantation. L'argent avait été complètement détourné, avait été volé. Il n'avait aucun moyen de visibilité. C'est pour ça que j'ai lancé WeFly, pour permettre aux gens comme Daniel, aux gens qui n'ont pas la possibilité d'être sur leur plantation régulièrement, de pouvoir voir et gérer leur plantation sans être contraints de se déplacer. Et on allait plus loin en se disant que les gens comme Daniel avaient besoin de connaître exactement l'état de leur sol et de ne pas dépenser les ressources qu'ils avaient à disposition. Donc les drones permettent, sans contact avec le sol, de déterminer les besoins du sol en engrais, les besoins en eau, et de ne pas juste mettre de l'engrais, de mettre la bonne quantité d'engrais au bon endroit. Pas juste mettre de l'eau, mais de mettre la bonne quantité d'eau au bon endroit.
Oui, mais vous auriez pu vous dire, en étant à San Francisco, que ce n'était pas votre problème.
Oui, mais je suis particulièrement attiré par l'Afrique, et je pense que beaucoup de gens disent que le futur de ce continent, c'est la jeunesse. Et en tant que jeune, je n'ai pas envie d'être le futur de l'Afrique, j'ai envie d'être son présent. Donc je suis rentré pour changer les choses maintenant.
Eric Thiam, vous aussi, vous avez fait, vous le disiez tout à l'heure, des études en Corée du Sud. Toute votre famille vous disait « reste là-bas pour travailler », mais vous, vous avez dit « non, je vais rentrer pour porter mon innovation AgroPad ».
Tout à fait, madame. Étant donné que, on dit chez nous au Cameroun, ventre la famille n'a point d'oreille. En tant que fils d'agriculteur ayant grandi dans une famille essentiellement agricole, lorsque j'ai eu la bourse pour aller en Corée faire ma formation en énergie renouvelable, je suis arrivé, j'ai découvert beaucoup de systèmes qui automatisaient l'irrigation. Alors j'ai pensé que ces systèmes pouvaient être également utiles chez nous en Afrique, en l'occurrence au Cameroun. Mais alors j'ai relevé quelques limites sur ces systèmes qui pouvaient venir être utiles en Afrique. C'est-à-dire que les systèmes observés en Corée du Sud fonctionnaient de façon autonome, certes, mais avec du réseau à partir du réseau de distribution d'électricité. Or, chez nous en Afrique, l'agriculture se pratique généralement en zone périurbaine et rurale. Alors, plus de 50% de la superficie du Cameroun n'étant pas couvert du réseau national d'électricité, il fallait réfléchir comment mettre sur pied un automate capable d'être alimenté à partir de l'énergie renouvelable et permettant d'irriguer les plantations automatiquement. Alors, lorsque ma formation est terminée en Corée du Sud, les parents, les mamans, les tantines, les oncles, le papa au village disaient « Mais il ne faut pas rentrer, il y a la précarité ici. Tu as eu la chance d'avoir la bourse, il ne faut pas rentrer, reste là-bas, bats-toi, c'est mieux là-bas. Parce qu'ici, il y a tellement de pauvreté, on a faim, tu vois, on attend de toi l'argent de l'étranger. » Moi, dans ma tête, avant d'aller en Corée du Sud, j'avais déjà mon projet en tête. Je tenais déjà à mettre sur pied mon projet pour résoudre le problème d'irrigation que je rencontrais au Cameroun avant d'aller à l'étranger. Alors, j'ai pris la grande décision de rentrer.
Et aujourd'hui, vous regrettez ?
Et aujourd'hui, je ne regrette pas puisque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec passion. J'aime l'entrepreneuriat et je compte avancer, évoluer plus loin et inspirer beaucoup de jeunes Africains, comme moi, localement et à l'étranger.
Eh ben écoutez, je pense que c'est le cas ici, en tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme dans le public en vous écoutant. Merci à tous les trois finalistes brillants, enthousiasmants. Bravo encore pour vos innovations. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Sinatou Saka pour la formidable organisation de cette troisième édition du prix RFI Challenge App. Je ne sais pas où elle se cache, mais je sais qu'elle est quelque part. Merci à Marc Fichet pour l'installation de ce studio, à François Porcheron pour la réalisation et au public, évidemment, de l'Institut français de Cotonou. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Yeah. Do jae do ne.